Place Info.
Bonjour à toutes et à tous, c'est 8h30 France Info du samedi sur France Info Radio et le canal 27 de la TNT avec Myriam Ankawa. Bonjour Myriam.
Bonjour Mathéo, bonjour à tous.
Journaliste à la chaîne parlementaire, notre invité ce matin pour réagir à l'actualité du moment et notamment évidemment cette condamnation hier des époux Balkany pour fraude fiscale. Il s'agit de Jean-François Copé, maire de Meaux et ancien président de l'UMP.
Bonjour Jean-François Copé.
Bonjour.
4 ans de prison ferme pour Patrick Balkany avec application immédiate et donc incarcération. 3 ans ferme pour Isabelle Balkany sans incarcération. 10 ans d'inéligibilité pour les deux. Le jugement est accablant pour les époux. Les montants de ces fraudes fiscales exorbitants. Comment réagissez-vous à cette décision de justice?
Je vais vous dire, d'abord j'ai une pensée amicale et personnelle parce qu'il se trouve que je connais l'un et l'autre comme beaucoup de responsables politiques depuis des années et que j'imagine combien ce doit être à titre personnel évidemment un moment très dur et on l'a vu, on l'a entendu et si je ne le disais pas, je ne vous dirais pas tout ce que je pense. Voilà. Après, pour le reste, c'est une faute très grave qui a donné lieu à une sanction très grave et très lourde. Moi, je ne commande jamais les décisions de justice, je ne l'ai jamais fait. Elles sont en plus pas définitives dans le cas d'espèce, puisque c'est la première instance. La seule chose que je puisse dire, c'est que, bon, comme tout le monde, je me dis avoir incarcéré immédiatement, à travers le mandat de dépôt, Patrick Balkany, c'est particulièrement sévère au regard de ce qui est, je crois, l'état de santé de Patrick Balkany, si j'ai bien compris, de son âge. Mais pour le reste, moi, je n'ai pas d'autres commentaires à faire sur cette décision de justice.
Mais vous parlez d'une faute très grave ce matin. C'est vrai que quand on regarde sur quoi porte cette condamnation, 4 millions d'euros non déclarés au fisc, ça c'était entre 2009 et 2014, le non-paiement de l'ISF entre 2010 et 2015, malgré 16 millions d'euros d'actifs, la ville à Pamplemousse dans les Antilles, le palais à Marrakech, le moulin à Giverny, vous dites une faute très grave. On est dans quel ordre, au fond, de scandale politique? Parce qu'il y a beaucoup d'affaires et parfois on relativise un peu les faits. C'est plus grave, par exemple, que l'affaire Cahuzac qui portait déjà sur une fraude fiscale.
Alors, je rentrerai certainement pas dans tout cela. L'avocat que je suis a vocation aussi à rappeler, comme n'importe quel citoyen, que c'est une procédure qui n'est pas terminée. D'ailleurs, les avocats de Patrick et Isabelle Balkany ont annoncé qu'ils interjetaient appel. La seule chose que je peux dire, c'est que c'est toujours très compliqué dans la passion du moment de faire ce type de commentaires, de hiérarchiser ce qui est plus grave, ce qui est moins grave. C'est normal qu'en plus, dans ces périodes-là, il y ait du déchaînement. Je le vois à travers les réseaux sociaux, le peu que je regarde, ou la télévision, les médias. Je veux juste appeler l'attention sur le fait que, et c'est toute la singularité de la justice, c'est qu'elle doit avoir le recul nécessaire au-delà du commentaire immédiat. Donc c'est pour ça aussi que certaines affaires prennent du temps, c'est justement pour qu'il y ait ce recul. Voilà. Donc, encore une fois, si on doit hiérarchiser les choses, on n'en sort pas parce que je considère que la faute de Cahuzac était très grave, que ça n'était pas tant les montants que la manière dont les choses se passaient, que pour autant, la justice est passée de la même manière. C'est ainsi que vont les choses.
Est-ce que c'est la première fois, en tout cas, et ce n'est pas que symbolique, ça va au-delà du symbole, c'est la première fois que Patrick Balkany est condamné à une peine aussi lourde et à de la prison ferme. Est-ce que vous voyez dans cette décision, dans ce jugement, la fin d'une forme d'impunité en politique? Est-ce qu'on a basculé dans ce moment-là, aujourd'hui en France?
Ça signifierait qu'avant, il y en avait, et je ne crois pas que ce soit vrai. Après, il peut toujours y avoir des gens qui passent à travers les mailles du filet, si je peux juste ajouter cela, pas que en politique, dans bien d'autres domaines. Je suis maire de Meaux, comme beaucoup de mes collègues, je sais, je vois des situations de violence au quotidien, notamment puisqu'on en parle beaucoup enfin en ce moment de violence conjugale épouvantable, et de gens qui pour autant ne font même pas une heure de prison. Donc je crois que derrière tout cela, il y a une réalité, c'est qu'il faut que l'autorité soit assumée dans une société organisée. Et arrêtons de préjuger sans arrêt que les responsables politiques sont coupables de tout avant même d'avoir regardé les faits.
C'est pas ce que j'ai dit.
Coupables de tout.
Oui.
Pourquoi?
Ils sont pas tous coupables.
Eh ben, je vous remercie de le dire. Je vous remercie de le dire parce que c'est exactement mon point. En réalité, vous savez qu'aujourd'hui, il y a des dispositifs de contrôle qui sont considérables. Et tous ceux qui ont été menés, c'est le président de la Haute Autorité pour la Transparence de la Vie Politique qui l'a dit, c'est un nombre infime de responsables qui font l'objet de
poursuites. Mais je vous retourne, alors je vous retourne, enfin je retourne la question, mais je la complète. Est-ce que, écoutez, quand on voit ce que dit le président du tribunal hier, devoir déchirure aggravée du pacte républicain, parce que les époux Balkany sont des élus de la République, que vous êtes aussi, est-ce que leurs infractions sont d'autant plus graves? On parle aussi de ce devoir d'exemplarité-là,
oui,
en tant qu'élu, ça, représentant de l'État.
Qui peut vous dire le contraire? Bien sûr. Je veux d'ailleurs, puisque nous en sommes là, vous proposez de faire le match à l'envers, enfin dans le sens inverse, c'est-à-dire que considérons que alors, s'il apparaît que des élus sont mis en cause, souvent par la presse, le plus souvent de manière atrocement violente, et qu'ensuite ils sont innocentés, je propose alors qu'on y consacre autant de temps dans l'antenne qui est disponible. Je vous donne un exemple idiot, mais il se trouve que je le connais. Cet exemple, c'est le mien.
Oui.
J'ai été mis en cause dans des conditions absolument inadmissible et anormal lorsqu'a éclaté ce qu'on appelait à l'époque l'affaire Big Malion, qui est devenue l'affaire des comptes de campagne de Sarkozy.
Bien. Vous avez été blanchi.
J'ai été totalement innocenté. C'est la justice qui m'a rendu mon honneur. Non seulement ça n'a pas fait une ligne dans la presse, mais pire encore, lorsque j'ai attaqué pour diffamation un de vos confrères, Franz-Olivier Gisbert, qui avec son journal Le Point s'est déchaîné dans des termes immondes, non seulement il a été condamné en première instance, mais ensuite en appel et enfin en cassation, pas une ligne dans la presse. Même vos confrères de l'AFP ont refusé de faire une dépêche.
Mais là, on parle d'une condamnation, Jean-François Copé.
Oui, ben moi aussi, je vous parlais de la condamnation de Franz-Olivier Gisbert,
mais là, on parle de la... Mais là, c'est une condamnation, donc ça veut dire que c'est acté. Qu'une fraude a été commise.
Oui,
et qu'une faute a été commise.
Absolument. Je vous disais. C'est pour ça que c'est intéressant d'écouter aussi ce que disent ceux que vous interrogez. La diffamation monstrueuse dont a été l'objet un journaliste français et son journal pour avoir fait ce qu'il a fait n'a pas fait une ligne dans la presse et cette condamnation, elle n'était pas en première instance. Là, nous parlons d'une première instance. Alors, elle était définitive en cassation. Pourquoi je vous dis ça? Juste pour dire, essayons de ne pas faire de poids, de mesure. Au-delà du sensationnel, si on se plaint toute la journée de l'image des hommes politiques, rééquilibrons les choses.
Oui, mais sauf que vous disiez, c'est la presse qui condamne avant. Sauf que là, la justice condamne. Là, on parle de justice qui condamne
d'un tribunal.
Je
vous dis simplement, c'est pas mon point, vous l'avez entendu. Ce que je vous dis, c'est qu'il faut faire effectivement les choses de manière équilibrée et qu'au même titre que l'on se déchaîne dans un cas, s'il apparaît qu'un homme, un responsable politique gravement mis en cause est totalement innocenté, je propose qu'on y passe autant de temps dans les médias pour réhabiliter son honneur.
Jean-François Copé, je propose qu'on passe...
Est-ce que je vous ai convaincu ?
On va continuer à en parler. Je vous propose qu'on passe une
minute. C'est marrant. Quand un homme politique répond pas à la question, le lâche pas. Est-ce que je vous ai convaincu ? Est-ce que vous pensez pas quelque part que ça mérite d'être médité, cela ? Que les journalistes puissent passer autant de temps à réhabiliter l'honneur de ceux qui ont pu être salis injustement.
À l'autocritique, Myriam. Y compris les médias.
Merci.
8h40 sur France Info, l'info avec Édouard Margui.
Isabelle Balkany est maire par intérim de Levallois-Perret. Elle le dit sur France Info au lendemain de l'incarcération de son mari, Patrick Balkany, condamné pour fraude fiscale à 4 ans de prison ferme. Elle aussi a été jugée coupable, condamnée à 3 ans ferme, mais sans mandat de dépôt. Le commissaire divisionnaire de Nantes va être muté après la mort de Steve Canisseau. Le ministre de l'Intérieur l'a annoncé hier en dévoilant un rapport de l'inspection générale de l'administration. Le fonctionnaire a manqué de discernement le fameux soir de la fête de la musique. Le sud-ouest de l'Espagne fait face à des inondations meurtrières. 5 personnes sont mortes en 2 jours. 3500 ont été évacuées. Des dizaines de routes sont fermées. Perturbations également dans les gares et dans les aéroports. Revue à la baisse de la prévision de croissance en France, le ministère de l'Économie voit finalement 1,3% l'an prochain contre 1,4% au départ. Les dépenses annoncées pour répondre au mouvement des Gilets jaunes expliquent en partie cette rectification. La contre-performance des footballeurs lyonnais hier soir, 2 buts partout à Amiens. Ils se sont fait rejoindre au score dans les arrêts de jeu. Lille l'emporte contre Angers 2-1. Prochain match de cette 5e journée de Ligue 1, c'est le PSG qui reçoit Strasbourg à 17h30.
France Info. Et tout est plus clair.
Le 8h30 France Info avec Jean-François Copé et Myriam Ankawa.
Vous avez commencé à l'évoquer, Jean-François Copé. Il y a dans ce jugement une décision rare dans les affaires de fraude fiscale, le mandat de dépôt des juges qui a valu donc à Patrick Balkany de passer sa première nuit en prison. Avant de réagir, je voudrais que vous puissiez écouter l'avocat de Patrick Balkany qui réagissait hier, maître Éric Dupond-Moretti.
Je suis totalement sidéré par ce verdict. Il pense incarner la République, rétablir les comptes publics. Mais ce qui me choque le plus, c'est évidemment le mandat de dépôt qui est une humiliation totalement inutile et pour nous insupportable. Je pense qu'on s'est payé Balkany aujourd'hui. Nous allons bien sûr interjeter appel et nous n'acceptons pas que l'on se soit payé Balkany. Ce que nous attendons, c'est que Balkany soit jugé, et c'est singulièrement différent.
Vous êtes d'accord? On s'est payé Balkany, dit son avocat.
Enfin, moi, je ne veux pas encore entrer. Encore
sur une fois, le mandat de dépôt, est-ce qu'il est justifié?
Je vous ai déjà dit beaucoup de choses. Sur ce, moi, je me suis exprimé tout à l'heure, donc je pense,
c'est trop rude.
Je pense la même chose. Enfin, je sais pas. En tout cas, c'est quelque chose qui peut étonner au regard de pour le coup, on parle de la justice quand on sait que dans un certain nombre de dossiers criminels gravissimes, sur un certain nombre d'affaires que l'on peut connaître sur le terrain, je parlais tout à l'heure par exemple des violences conjugales, eh bien on sait qu'il y a des gens qui ne font même pas une heure de prison, voilà, et donc on se dit
deux poids deux mesures.
Non, mais c'est, encore une fois, je veux pas aller au-delà. Je vous ai dit tout à l'heure que j'étais comme un certain nombre, et encore une fois en tant qu'avocat, un peu interrogatif sur ce point-là.
Vous qui le connaissez, ce qu'a dit, n'est pas homme à quitter le pays pour échapper à la justice.
Encore une fois, on le sait, j'ai lu qu'il n'avait plus de passeport, donc de toute façon le problème est réglé. Mais encore une fois, je me suis exprimé là-dessus tout à l'heure, on s'est tout dit.
Vous qui avez traversé une épreuve judiciaire, pourquoi ce procès arrive-t-il si tard? Selon vous.
Bon, d'abord,
Patrick Balkany, il a 71 ans. Il avait été déjà inquiété par la justice en 1996. Mais là, la peine et la condamnation est lourde. Pourquoi maintenant seulement?
Bon, d'abord, je dois vous dire, j'ai pas subi une épreuve judiciaire, j'ai subi une épreuve médiatique. Je veux vraiment, parce
qu'on l'avez rappelé,
l'a tellement
vous avez été
pas
blanchi.
Dit. Mais les magistrats m'ont rendu mon honneur très vite, parce
vous
qu'ils ont
dit.
Très vite vu les choses.
Vous l'avez
parce
dit.
Que vous parlez de délai. Pourquoi
Didier
est-ce que là
Schuller,
c'est plus long
sur notre antenne,
pourquoi
il y a quelques minutes, expliquait que si ça avait été plus long, très clairement, Nicolas Sarkozy, alors président de la République, l'avait protégé.
Écoutez, moi, il se trouve que Didier Schuller, il est totalement engagé dans ce dossier, et donc je ne connais pas, je ne suis pas sûr que son niveau d'impartialité soit très élevé. Moi, qui ne suis en rien dans ce dossier que je ne connais pas, je sais par expérience que les affaires judiciaires, surtout quand elles sont complexes, elles sont forcément longues, les délais d'instruction sont longs, les procédures d'inscription dans les différents calendriers sont longs, ceci explique cela.
Mais il n'y a plus d'interférence aujourd'hui, vous voyez une différence dans le cours et l'évolution des affaires
vieille,
judiciaires par
rapport aux
politiques.
C'est une ritournelle que celle de l'interférence du politique. Moi, mon expérience politique, c'est que j'ai jamais été témoin à aucun moment de ce genre de choses.
Voilà. S'il venait à être condamné en appel, Patrick Balkany, ainsi que son épouse, est-ce que ce serait, selon vous, la fin symbolique ou non, d'une ère, la fin des affaires des Hauts-de-Seine qui gangrenaient le RPR à l'époque?
Enfin, d'abord, chaque histoire est différente. Après, vous en faites la couverture médiatique que vous souhaitez. Enfin, chaque affaire est différente. C'est pas plus tel département que tel autre. Encore une fois, j'insiste sur le fait que chaque affaire a son histoire. Je comprends qu'on veuille mélanger tout, amalgamer tout. Mais ça n'a rien à voir. Ensuite, des affaires dans la République, dans l'histoire de la République, il y en a toujours eu, il y en a même eu sous la monarchie. Ça fait partie aussi de la chronique de l'histoire des hommes.
Vous qui êtes maire de Meaux, et on va en reparler dans un instant, est-ce que vous pensez honnêtement que Patrick ou Isabelle Balkany puisse continuer à être maire de Levallois-Perret?
Écoutez, ça, c'est encore une fois, ce sera vraiment à eux de voir ce qu'ils doivent faire.
Mais ça
encore
vous choquerait qu'ils soient candidats?
Non, mais attendez, là on est quand même dans la passion du moment. J'ai entendu bien sûr les annonces d'Isabelle Balkany, mais on est dans la passion du moment, c'est un moment
on
très
douloureux. On est dans
douloureux,
la passion du moment, mais en même temps, il s'est déjà déclaré candidat.
Mais
s'il se
savez,
représente, est-ce que vous le soutenez ou pas,
mais
simplement
non, je ne m'occuperai certainement pas de ça. Je suis à Meaux, je m'occupe de ma ville, je suis en plus, comme vous le savez, très retiré de la politique nationale. Donc tout ça, je ne vais pas rentrer là-dedans. La seule chose, c'est que là, on est dans la passion du moment, on verra ce qu'il en sera
mais
plus tard.
Mais c'est raisonnable
enfin,
de se présenter pour un élu après une condamnation pareille.
C'est tes choix personnels, moi je ne le ferai pas à titre personnel.
Voilà.
Encore une fois, c'est moi. Chacun fait ses choix. Je rappelle qu'il y a des lois en France quand même. Que disent ces lois? Que lorsqu'une décision n'est pas intervenue définitivement de justice, il y a des voies de recours, elle n'est donc pas applicable en tant que telle. C'est pour ça d'ailleurs qu'un certain nombre peuvent être, y compris condamnés en première instance, continuer leur parcours jusqu'à ce que la décision soit définitive. Imaginez, c'est le droit, qu'elle soit inversée in fine en appel, voire en cassation. Que doit-il se passer alors? Regardez l'affaire Tapie, qui n'a strictement rien à voir sur le fond. Vous avez vu ce qu'il a été dit sur Bernard Tapie? Puis Bernard Tapie a eu un non-lieu total, lui et tous les autres co-prévenus. Est-ce que vous vous rendez compte des dégâts que cela peut constituer pour les hommes concernés, pour leur honneur? Tout ça doit être quand même alors, un
mais
peu
dans affaire, cette affaire Balkany, est-ce que les dégâts, ils sont pas du côté, au fond, de votre parti aussi, pour l'image des Républicains en ce moment déjà affaiblie? Est-ce que ça va dans le bon sens, franchement?
Non, mais attendez, stop. Encore une fois, là, on n'est pas sur l'affaire d'un parti politique. On n'est pas sur l'affaire d'une idée politique. On est sur l'affaire d'un homme, d'une histoire que chacun a vue puisqu'elle a été chroniquée dans les journaux. Après, on peut faire tous les mélanges qu'on veut. Moi, je veux bien, mais enfin, c'est un autre sujet.
Alors, il y a quelque chose qu'on peut pas enlever à Patrick Balkany, c'est sa popularité à Levallois. On a encore entendu et vu des reportages ce matin sur France Info sur une grande majorité de Levalloisiens qu'ils soutiennent. Est-ce que vous considérez que c'est un bon maire?
Ah ben, Patrick Balkany. Écoutez, encore une fois, enfin, bon, je suis venu vous parler de cela. Je souhaitais qu'on parle d'autre chose, mais je crois que c'est mal parti. Mais en ce qui concerne, je n'ai aucune appréciation à faire, si ce n'est d'observer qu'il est réélu régulièrement, que les Levalloisiens expriment très souvent dans les médias, lorsqu'ils sont interrogés, leur très grande satisfaction du travail du maire.
Et d'ailleurs, je vais vous dire,
mais il n'y a pas de paradoxe. Mais l'homme n'est pas unique. Enfin, chacun a sa personnalité. Et heureusement, c'est trop facile d'être sans arrêt en train de taper sur l'honneur des gens. Sans aucun discernement, en considérant qu'on est toujours très très mal, rarement très très bien, mais très très mal quand on est engagé en politique. Je voudrais quand même rappeler que les maires, ce sont des hommes et des femmes qui s'engagent de manière formidable. Ça n'est pas un hasard s'ils ont le soutien de leur population. C'est peut-être aussi parce qu'ils font des choses remarquables dans leur ville.
Et c'est le cas de Patrick Balkany, parce qu'on a parlé aussi...
Je ne suis pas levalloisien, mais tout ce que j'ai pu lire ou entendre...
D'une certaine forme de clientélisme, des cadeaux réguliers, des colis de Noël...
Écoutez, ça, c'est généralement... Quand un maire est mal élu, on dit que c'est parce qu'il faisait rien. Et quand il est très bien élu, voire réélu, on dit que c'est parce qu'il est clientéliste. Il est quand même grand temps qu'on se calme un peu avec tout ça. Si on pouvait trouver des mots un tout petit peu plus nuancés, j'ose presque un tout petit peu plus bienveillant pour parler de celles et ceux qui s'engagent pour notre pays, au-delà même de l'histoire de tel ou tel, je trouve que ce serait pas mal. Parce qu'à force, vous voyez beaucoup de gens qui n'ont plus envie de s'engager en politique, des gens de grande qualité, simplement parce qu'ils en ont assez de voir leur honneur piétiner en permanence.
Il est bientôt 8h, 9h-10 sur France Info, 8h50, on retrouve Edouard Marguier pour l'info.
Isabelle Balkany rendra visite à son mari en prison dans la journée. Elle lui apportera même des affaires, c'est ce qu'elle a précisé sur France Info. Patrick Balkany est en détention depuis hier, condamné à 4 ans ferme pour fraude fiscale. Sa femme a pris 3 ans ferme, mais sans incarcération immédiate. Un mis en examen n'est coupable de rien, déclare Richard Ferrand. Le président de l'Assemblée nationale réagit pour la première fois depuis qu'il est poursuivi pour prise illégale d'intérêt dans l'affaire des mutuelles de Bretagne. Jean-Marie Le Pen dénonce sur France Info des poursuites tout à fait inacceptable. L'ancien président du Front National, qui a été mis en examen pour détournement de fonds publics et complicité dans l'affaire des emplois présumés fictifs du Rassemblement National au Parlement européen. David Cameron pense tous les jours aux conséquences du Brexit, mais l'ancien Premier ministre britannique ne regrette pas d'avoir organisé le référendum sur la sortie européenne. Déclaration dans le Times, il s'inquiète également de l'avenir de son pays. Les funérailles du dictateur Robert Mugabe au Zimbabwe, une vingtaine de chefs d'État et des dizaines de milliers de personnes vont lui rendre un dernier hommage national. L'ancien président est mort il y a 8 jours, héros de l'indépendance dans son pays.
France Info. Et tout est plus clair.
Notre invité sur France Info ce matin, Jean-François Copé, vous vouliez parler d'autre chose? Eh bien, on va parler d'autre chose maintenant. On va parler des municipales, ça vous concerne. Au premier chef, vous avez déclaré il y a quelques jours, vous allez envoyer une lettre au Meldois, les habitants de Meaux, pour dire que vous seriez candidat pour un nouveau mandat. Ce serait le 5e depuis 1995. Vous avez même dit, je vous cite, « Je ne pense qu'à ça matin, midi et soir ». Ça veut dire que vous n'êtes pas lassé depuis tout ce temps, vous avez toujours de l'appétit.
Absolument.
Pour cette fonction.
C'est exactement ce que j'ai dit à mes administrés, parce que le mandat de maire, et Dieu sait si j'ai eu l'honneur de pouvoir exercer plusieurs mandats, j'ai été député, j'ai été membre du gouvernement, vous le savez, notamment sous la présence de Jacques Chirac, j'ai été ministre du budget, porte-parole du gouvernement. Ce mandat est un mandat qui donne, je trouve, le plus de dimension à l'engagement politique, parce que ce qu'on décide, avec ses administrés, ça va se faire. Et donc, on peut transformer une ville. Mmh. Et j'ai vu, à travers ce que nous avons mis en œuvre dans à Meaux, une ville qui a des quartiers difficiles, qui a beaucoup des reflets de la société française d'aujourd'hui, y compris à travers des problèmes qu'on a pu connaître, d'insécurité ou de chômage, de toute nature, eh ben, la politique, ça sert à quelque chose. Mmh. Parce que loin des caméras, loin des jugements à l'emporte-pièce, dans la durée, on peut construire, dans tous les domaines. La culture, l'emploi, la sécurité, le sport, c'est une occasion, l'éducation, une occasion formidable d'être utile à ses administrés.
Vous avez des adversaires sur place, pourtant vous n'arrêtez pas au fond de louer un peu l'action d'Emmanuel Macron et de la République En Marche, mais le référent...
Ça dépend des fois.
On verra, on va vous poser la question hein, sur la gouvernance du président et sur ses réformes juste après. Le référent à la République En Marche, chez vous, dites de vous que vous seriez mieux à Nemours au musée de la Préhistoire, ils ne sont pas très sympas sur
non,
place.
Non, c'est un peu ce que j'ai dit d'ailleurs, j'ai trouvé que ça c'était ce que vous n'avez cité que cet extrait, il y en a d'autres, ça m'a pas semblé très ni fin ni délicat. Voilà. J'ai trouvé que ça ressemblait beaucoup à ce qu'auraient pu dire des gens d'extrême droite. Mais la vérité, c'est que
les hommes
vous n'empêcherez pas la médiocrité et nous l'avons vu à travers la déclaration de ce représentant local du parti En Marche, enfin, c'est une dame d'ailleurs. La seule chose que je puisse vous dire, c'est que moi je pense que dans les municipalités, on ne fait pas de politique partisane comme au niveau national. Tout le monde connaît mes idées. Tout le monde sait que je suis membre du Parti des Républicains. Je l'ai même dirigé. À un moment d'ailleurs où on gagnait. C'était autre chose qu'aujourd'hui. Oui. Bon, mais le moins que l'on puisse dire, c'est que les gens ne demandent pas une étiquette politique. La preuve, j'ai été réélu la dernière fois, les fois précédentes, au premier tour, avec des scores très importants, entre 65 et 68% selon les élections. Et les gens, pour autant, souvent aux élections nationales à Meaux, ils votent plutôt à gauche.
Pour revenir à Emmanuel Macron, vous avez dit en mai 2018, donc ça fait un an et demi à peu près, que vous en avez parlé comme le président de droite qu'on n'attendait pas et qu'il avait fait en deux ans.
On n'attendait plus.
Ce que la droite, qu'il n'attendait plus, ce qu'il avait fait en deux ans, ce que la droite n'avait pas fait en 30 ans. Est-ce que 18 mois plus tard, à peu près, vous êtes toujours convaincu, notamment sur les retraites en ce moment.
Écoutez, ça dépend des sujets, mais je trouve que globalement, il y a un certain nombre de décisions qu'il prend, et je me dis, c'est bien dommage que la droite l'ait pas fait quand elle avait tous les pouvoirs.
Mmh. Sur tous les sujets, y compris le régalien.
Pas tous les sujets, mais par exemple, je pense que lorsqu'il gouverne par ordonnance, je le préconise depuis des années, je vais pas m'y opposer, ça n'aurait pas de sens. Je vois ses intentions sur la réforme des retraites, qui s'inscrivent tout à fait dans ce que nous avions fait nous. J'étais membre du gouvernement à l'époque et très engagé avec Jean-Pierre Raffarin sur la réforme des retraites. Je pense que la crise des Gilets jaunes a été, du point de vue de l'ordre public, terriblement mal gérée et on n'aurait jamais dû laisser sans réagir des voyous piétiner la tombe du soldat inconnu et envahir l'Arc de Triomphe sans réagir. Et là, j'ai vu un État faible. Mmh. Et je pense que depuis, heureusement, les choses ont été reprises en main parce qu'un grand pays comme le nôtre ne peut marcher, ne peut fonctionner comme toutes les grandes démocraties qu'avec à la fois de l'autorité et naturellement du progrès. Mais c'est ces deux piliers-là qui forment la force d'un grand pays.
Mais qu'est-ce que vous faites encore à droite, alors, si vous le trouvez si formidable, Jean-François?
Mais non, c'est plutôt Monsieur Macron, est-il bien l'homme de gauche qu'il prétendait être au départ?
Vous l'appelez à vous rejoindre ou, au fond, vous n'êtes pas si loin? Vous pourriez franchir le pas.
D'abord, c'est lui qui est président
du parti du président.
Oui, j'appelle rien du tout. D'abord, c'est lui qui est président de la République. Moi, je dis pas que je ne souhaitais pas l'être à un moment, mais comme vous le savez, mon score à la primaire m'a fait comprendre que c'était pas tout à fait le contexte.
Mais la seule chose que je puisse vous dire, par exemple, chez les Républicains, encore aujourd'hui, vous êtes avocat, vous avez pas mal d'activités, vous êtes maire, et vous trouvez l'énergie d'aller au bureau politique hebdomadaire des Républicains.
Non, alors, je vais vous dire. D'abord, le bureau politique. Malheureusement, il y a bien longtemps qu'il n'est plus hebdomadaire. La période des deux dernières années ont été désastreuses. Moi qui pensais qu'on avait touché le fond avec la défaite de Fillon, j'ai vu pire après. J'espère que Christian Jacob va pouvoir remettre un peu d'oxygène.
Parce que vous pensez qu'il va être élu?
Enfin, j'espère qu'il va être élu. Mais surtout qu'on va rouvrir les portes et les fenêtres, qu'on va refaire en sorte que les gens reviennent, au moins acceptent de se reparler après cette période de purge grotesque.
Mais qu'est-ce qui fait que vous avez encore envie d'y rester, justement?
Écoutez, la fidélité à la fois à mes idées et puis aux militants dont j'ai assuré la mobilisation pendant un certain nombre d'années. Vous savez, c'est marrant d'ailleurs parce que je crois que Sarkozy avait beaucoup tapé sur moi dans son livre en expliquant que j'avais été un éphémère président du parti. Je suis celui, je me suis aperçu après, qui a présidé le parti le plus longtemps finalement de l'histoire de l'UMP. C'est vous dire combien, c'était 4 ans, combien sur ces sujets j'ai eu le temps d'explorer tout ce que nous pouvions faire de positif en se mobilisant un parti parti qui, à l'époque, c'était 350 000 militants. Aujourd'hui, nous n'en sommes plus là. La droite est totalement écartelée. Il faudra peut-être un jour que certains se dévouent pour la reconstruire. Mais pour ce qui me concerne, j'ai pris beaucoup de recul par rapport à
Jean-François
tout ça.
Jean-François Copé, il nous reste même pas une minute. Le président de l'Assemblée nationale, Richard Ferrand, a été mis en examen dans l'affaire des mutuelles de Bretagne. Question simple, est-ce que vous considérez qu'il doit démissionner ?
Écoutez, je vois que la matinée aura été très, très axée sur ces sujets. La question, j'ai vu que Jean-Marie Le Pen était également mis en examen, que M. Mélenchon allait avoir son procès cette semaine. Le moins qu'on puisse dire, c'est que l'actualité de ce point de vue
et
est
donc,
importante.
Richard Ferrand.
Écoutez, j'en sais rien. Je pense que on est dans des situations folles où on ne sait plus très bien ce qu'il faut penser de toutes ces mises en cause dans tous les sens.
Mais
il y a une jurisprudence sur la mise en examen. Il a démissionné du gouvernement. Là, il est maintenant parlementaire. Doit-il démissionner? Moi, je pense qu'il y a un moment où on va avoir un vrai débat qu'il faut qu'on ait tous sur la présomption d'innocence. Parce que les mises en examen, ça vient très,
merci,
très souvent, très, très vite. Et ben, on sait pas toujours quoi en faire quand après, les gens sont innocentés. Donc, j'ai envie de vous dire, de
merci,
droite comme de gauche, soyons modérés.
Merci Jean-François Copé, merci Myriam Ankawa. Demain à 8h30 avec Jean-Jérôme Bertolus, on recevra quelqu'un qui lui a quitté les Républicains, c'est le député La République En Marche des Hauts-de-Seine, Thierry Solaire.
Et l'info politique, n'oubliez pas, c'est aussi un podcast original sur France Info, Paris, la bataille, le feuilleton des municipales. Un nouvel épisode tous les vendredis, un podcast à écouter sur franceinfo.fr, disponible aussi sur l'application Radio France.